Vous écoutez un podcast original de Radio B. Cette série de 8 épisodes donne la parole à des femmes concernées par les conduites addictives. Alcool, médicaments, substances illicites, derrière les produits, il y a des parcours de vie, des histoires singulières, souvent invisibilisées. À travers ces témoignages, ce podcast propose un espace de parole sobre, respectueux et sans jugement pour mieux comprendre les réalités de l'addiction au féminin, ses mécanismes, ses impacts et les chemins possibles vers l'accompagnement et le soin. Ce projet est réalisé avec le soutien de la MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, financée par la préfecture de l'Ain. Tout au long de cette série, les voix que vous entendrez ont choisi de témoigner pour faire reculer les tabous, informer et contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de prévention et de santé publique.
Je retrouverai jamais la joie des premières fois, on va dire. Ce sentiment d'être pompette, de rigoler, de... Je sais qu'elle est perdue, il faut en faire le deuil. Parce que mon cerveau a imprimé une autre manière de consommer l'alcool, en fait. Et c'est celle-ci qui va toujours essayer de rechercher.
Alors, je m'appelle Cléo, j'ai 34 ans, je viens de Grenoble et je vis actuellement à Lyon et je suis célibataire sans enfant. Pour le moment, je suis optimiste, mais après, je suis pleine de doutes quant à la sortie, évidemment. L'addiction est malheureusement présente dans mon entourage proche dès la préadolescence. On va dire que l'addiction était déjà présente. Avant la préadolescence, j'avais une vie d'enfant très heureuse. Mes parents sont séparés quand j'avais une dizaine d'années, donc avant ça, c'était une enfance heureuse. J'étais une petite fille gâtée. C'est à partir de la séparation que petit à petit, ça s'est installé dans ma famille. Ouais. Je dis pas que c'est la cause. Mais ça fait partie des facteurs qui font que, oui, j'avais plus de chances de glisser sur la pente, oui.
Ma première rencontre avec l'alcool, je pense que c'était comme la plupart des jeunes français et françaises. peut-être 8, 9 ans, par là. Les repas de famille ou grandes occasions, on a droit à un fond de champagne ou un fond de vin. Les enfants veulent faire comme les grands, et puis, c'est Pâques, il y a du champagne, il y a un petit fond. Mais oui, ça me paraît assez anodin maintenant, c'est vrai. C'est difficile à dire, puisque l'alcool, on en voit toujours autour de nous. Donc, première fois que j'ai consommé, on va dire, ouais. C'était à l'adolescence, je pense comme beaucoup de personnes. C'était à l'adolescence, avec les copains, pour faire la fête. Et oui, clairement, on cherchait le sentiment d'ivresse, le côté joyeux. En tout cas, moi, c'est moi ce que je recherchais, oui. Y a eu l'adolescence, après il y a eu les études, donc les soirées étudiantes... avec tout ce que ça implique. Moi, j'ai fait des études d'art, donc c'était la grosse fête au moment de la fin des partiels, oui. Pour moi, en tout cas, c'était la grosse fête parce qu'on a 18 ans et qu'on a jamais vécu ça avant, mais c'était principalement de l'alcool et de la fume. Moi, à ce moment-là, j'avais mon appartement, donc. Je pouvais sortir les soirs que je voulais. Il y a eu un peu plus d'excès à cette période-là, on va dire. Mais j'avais déjà conscience que la pente était glissante pour moi. On m'avait plus ou moins mise en garde avec le passif dans ma famille que j'avais plus de chances de glisser. Alors c'est peut-être ça qui a créé cette ambivalence où j'en avais peur, mais en même temps, j'y allais quand même. Voilà. Mais oui, j'avais déjà conscience que j'étais un peu plus à risque, on va dire. Alors, est-ce que ça va me tomber dessus ou pas? Ouais, il y a un petit côté comme ça. Peut-être que je comprenais un peu plus qu'il fallait y faire attention parce qu'il y avait un risque et que sous l'enveloppe de « c'est la fête », j'étais bien consciente que la fête pouvait déraper. Mais ça ne m'a pas empêchée d'y aller. Ensuite, à la fin de mes études, je suis partie voyager et j'ai commencé à travailler dans la restauration. Donc, c'est un milieu où c'est quand même bien, bien, bien présent. Et j'ai continué à travailler dans ce métier pendant longtemps, en faisant de tout, donc du bar, de la boîte de nuit, du restaurant, de la brasserie et j'en passe. Il y a ce moment à la fin, le verre de fin de service, qui ensuite se poursuit peut-être dans un autre bar. Pour ma part, je travaille en ville, donc ça peut se prolonger jusqu'à tard. Et puis il y a un entre-soi aussi qui se crée avec les autres personnes de ce milieu, parce qu'on a tous des horaires décalés, parce que... Donc ouais, la consommation, à partir du moment où ça faisait quelques années que je travaillais dans ce milieu-là, la consommation augmentait considérablement. Ouais. Ça s'est installé petit à petit, insidieusement en fait. Et puis au fur et à mesure, c'est pas juste un verre de fin de service. Après, ça devient 2-3 verres. Ensuite, on va dans le bar d'à côté. Ensuite, et puis petit à petit, moi j'étais quelqu'un de très angoissé. Donc les verres se sont petit à petit invités à la maison. Et ce qui était au départ festif, m'a petit à petit aidé ensuite soit à me calmer ou à gérer des angoisses, oui. D'abord, il s'invitait à la maison le soir. Après être sortie avec les copains, je rentrais chez moi, j'avais pas forcément envie de m'arrêter là. Donc, dans ma tête, je me disais, je continue la soirée, mais toute seule. Ce qui, maintenant, avec du recul, n'a pas beaucoup de sens. Mais je sais que je suis pas la seule à penser comme ça. Et puis petit à petit, c'était les soirs où je travaillais pas, sans être sortie avant, ou parfois avant d'aller en soirée, je consommais un petit peu chez moi pour arriver à être plus à l'aise, peut-être. Et puis voilà, puis petit à petit, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Jusqu'à devenir un soir sur deux, ouais. Il y a un jour où j'en avais très envie, et le lendemain, je pense que le corps en était dégoûté. Donc c'était un jour sur deux pour moi, ouais. Où je travaillais toujours dans la restauration, mais en journée. Mais je rentrais chez moi et... C'était pour... Ouais. Décompresser du stress de la journée et puis me calmer de mes anxiétés qui sont là depuis très longtemps jusqu'à ce que ce soit plus moi qui contrôle mais lui ou elle selon comment on veut l'appeler, le produit en tout cas, c'était plutôt lui qui décidait de mon emploi du temps, ouais. C'est-à-dire que on a fait un bond de 10 ans en arrière jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques mois, c'était ça. C'était un jour sur deux, en général. Et c'était... ma journée s'organisait autour du moment où j'allais enfin pouvoir boire quelque chose. Je partais travailler le matin. Je faisais mon service. Quand je terminais en début de soirée, C'était aller faire les courses. Moi, je buvais du vin. Et en général, j'achetais du vin en cubi parce que ça coûte moins cher. Et c'était alors... un des premiers trucs que je me demandais, c'était pas tout le temps aller à la même supérette. Parce que la peur d'être cataloguée, alors la plupart, je pense que soit ils s'en foutaient, soit moi je ferais mieux de m'en foutre aussi, parce que au final, c'est le problème le plus important à ce moment-là, c'était pas ce que les autres allaient penser de moi. Il y avait quand même des choses un peu plus problématiques. Et c'était choisir dans quelle supérette j'allais aller, donc je me faisais un petit roulement. Est-ce qu'il me restait encore quelque chose de il y a quelques jours pour que ce que je viens d'acheter ait le temps d'être frais? Est-ce que j'avais des gens à appeler ou des choses à faire avant de consommer? Voilà, je me disais, fais tout ce que tu as à faire et puis après, je me récompensais, entre guillemets. Et là, c'était pour les jours où je travaille. Et puis, je me mettais une alarme pour aller me coucher... pour être en forme le lendemain. Mais en gros, j'allais pas me coucher tant que j'étais pas... Donc l'alarme, c'était pour... ouais, dans une heure, il faut que t'ailles te coucher, quoi. Mais le lendemain, c'était pas une journée bien du tout, parce qu'on est plein d'angoisse, plein d'anxiété. En plus, pour peu qu'on ait envoyé des messages ou appelé quelqu'un ou je ne sais quelle bêtise j'ai pu faire, le lendemain, on est complètement... on se sent très très mal. Donc le lendemain, on se dit plus jamais. Et puis, le lendemain du lendemain, on y retourne. Mais les amis se rendaient peut-être pas compte que... Bah, qu'à un moment, j'étais clairement malade. C'est des amis qui me connaissaient depuis longtemps et qui connaissaient en plus le passif dans mon entourage. Mais qui pensaient que, comme beaucoup de gens... et c'est malheureux, mais j'en ai fait partie, que c'était qu'une question de volonté. Beaucoup pensent ça et c'est malheureusement pas aussi facile que ça. Et oui, j'ai ressenti de l'incompréhension ou des gens qui simplement on s'est éloigné. Et même encore maintenant, je me dis je peux les comprendre alors que je pense que c'est plutôt l'inverse qui devrait se faire. Il faudrait essayer de davantage comprendre cette maladie. Mais moi, je suis tout juste en train de la comprendre, là, lors de cette cure. Il y a plein de choses dont j'étais pas au courant. Alors ça, je l'ai fait, hein, pour des amis, ou évidemment, d'arrêter du jour au lendemain, ou parce qu'on partait quelque part, parce que... Donc me dire, bah, pendant tant de temps, tu bois pas. Ou même si eux, ils buvaient, moi, ne pas boire. Mais j'ai compris déjà que c'était effectivement une maladie et que quand on a passé le stade, moi, j'ai passé, il n'y aura pas de retour possible, en fait. Et c'est ce que je suis en train de comprendre et que je suis en train aussi de me mettre dans le crâne, c'est que je ne pense pas que ce sera un jour possible pour moi de revenir en arrière sur reprendre une consommation festive ou je retrouverai jamais la joie des premières fois, on va dire. Ce sentiment d'être pompette, de rigoler, de... Je sais qu'elle est perdue, il faut en faire le deuil. Parce que mon cerveau a imprimé une autre manière de consommer l'alcool, en fait. Et c'est celle-ci qui va toujours essayer de rechercher. Et donc, je sais que demain, si je reconsomme, même si c'est au cours d'une soirée, c'est la porte ouverte à de nouveaux débordements, en fait. Ça, c'est assez compliqué à se dire. Je sais que quand je vais sortir d'ici, je vais annoncer que j'arrête. Avant de venir, j'étais pas tout à fait au clair avec ça. Je me disais, peut-être qu'à la sortie, je m'autoriserai un verre avec les copains de temps en temps. Au fur et à mesure de la thérapie, je me suis rendu compte que non, ce serait complètement impossible. Et donc, va falloir déjà que j'annonce ça. Moi, je suis en confiance, mais je sais que On verra comment ils vont le prendre. Certains vont être soulagés, sans doute, parce que c'est bien. Et certains vont peut-être trouver que c'est moins fun, mais après, bah, c'est pas leur... Heureusement, il y a du mieux, parce que je me rends compte que de plus en plus, le fait d'avoir une vie et un rythme de vie sain, c'est beaucoup plus tendance par rapport à il y a 10 ans où il fallait être un peu plus rock'n'roll, quoi. En tout cas, c'est l'image que j'ai. On en parle beaucoup ici des substituts. Parce que bah, moi, par exemple, quand j'ai fait le dry January, je prenais des bières sans alcool ou des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent être bien pour, bah, pour ceux qui n'ont pas de problème, en fait. Mais pour nous, ça peut nous donner encore plus envie, en fait. Parce que le visuel est le même, le goût est le même. Tous les sens sont réunis pour cette fameuse bière sans alcool. Mais en fait, notre cerveau se dit « Mais attends, il manque un truc, là. » Donc, tu m'as envoyé tous les signaux pour me dire que je vais recevoir de l'alcool et j'en reçois pas. Donc, les substituts, malheureusement, c'est pas forcément toujours un bon plan, quoi. Je pense que beaucoup de gens, sans être forcément addicts, en buvant une bière sans alcool, ils se disent « Ah, quand même, il manque un truc. » Ben, nous, c'est pas « il manque un truc », c'est notre cerveau va le réclamer, quoi. Et ça va... Il va le réclamer physiquement. Je suis suivie par une psy addictologue. En fait, j'ai pris la décision de m'aider moi-même il y a à peu près un an, où j'ai décidé de quitter mon métier de la restauration, du coup, parce que je me rendais bien compte que j'allais droit dans le mur et que je ne pourrais jamais aller mieux en continuant dans ce milieu-là. Et donc j'ai quitté mon métier et puis c'est moi qui finis par dire oui, je veux aller en cure. J'en ai d'abord parlé à mon entourage et à partir du moment où j'en ai parlé, je pense qu'on est tous un peu comme ça, quand on commence à parler de quelque chose, on le rend de plus en plus concret. Parce qu'on, d'une certaine manière, on prend les autres à témoin qu'on l'a dit, qu'on y pense en tout cas. J'ai commencé à en parler à ma psy et qui m'a parlé de différents centres. Peut-être que c'était juste ce dont j'avais besoin. Et après, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit des lettres à 3 centres. Et des lettres de motivation hein, aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, bah, par chance, je suis arrivée ici. Par chance et sans doute par motivation, parce que je les ai appelées à un moment toutes les semaines pour être bien sûr... que ma place était réservée. Je pense que la première chose à dire, ce serait de prendre confiance en elle, de ne pas avoir peur, de demander de l'aide. Peut-être aussi lui dire qu'elle n'a pas besoin de ça pour être quelqu'un de bien, et de surtout ne pas avoir honte de demander de l'aide. Au contraire, demander de l'aide, c'est une vraie preuve de courage. Je pense.